Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast des maternelles, podcast de France Télévisions. Et aujourd'hui dans le podcast des maternelles, on va parler d'une addiction qui touche des adultes aussi, mais en particulier des ados. Aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'addiction au porno. Voilà, au porno, vous allez entendre un témoignage, celui d'un ancien accro au porno. Et puis nous aurons les bons conseils de Catherine Solano, la sexologue, qui nous expliquera comment on peut tomber dans cette addiction et comment en sortir, puis évidemment les ravages que ça peut faire dans le cerveau des adolescents. Donc on écoute Tony, qui a le courage de venir raconter ça, et Dr Solano juste après.
Aujourd'hui, un enfant de 12 ans sur 3 a déjà été exposé à des images pornographiques. Évidemment, c'est un phénomène qui inquiète les parents que nous sommes, qui s'amplifie avec la multiplication des sites spécialisés sur Internet, avec la multiplication des réseaux sociaux, évidemment. Bonjour Tony.
Bonjour.
Merci d'être venu sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes tombé dans la pornographie assez jeune. Vous n'êtes pas le seul et c'est vraiment important que vous veniez témoigner aujourd'hui. D'abord parce que vous allez aider très certainement, comme vous le faites d'ailleurs tous les jours, les jeunes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que ça veut dire, comment s'en sortir, etc. Parce que vous êtes devenu donc vraiment dépendant. Il y a 4 ans, 2018, vous avez décidé d'arrêter et vous allez nous raconter votre cheminement, comment vous vous sentez maintenant, etc. Alors, à quel âge est-ce que vous avez vu vos premières images pornographiques? J'ai dit qu'à 12 ans, un enfant sur 3 avait eu accès à des images de type porno. Vous, c'était quel âge?
Aux alentours de cet âge-là.
Oui.
J'avais une dizaine d'années, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est sûr que vers le collège, j'étais déjà dedans, on va dire, même à partir de la sixième.
Et vous vous souvenez avoir été choqué de voir ces images? Ça vous avait fait quoi?
Pas vraiment choqué. Je dirais qu'il y a une curiosité naturelle, parce qu'on est des êtres humains, on est attiré par ça. Et on vit dans une société qui est assez sexualisée. On regarde des clips, la télé, des séries. Il y a déjà ces rapports-là qui sont dedans. Ça nous pousse à vouloir chercher plus. Mmh. Et du coup, quand on traîne un peu sur Internet, c'est assez facile d'accès. Moi, j'avais un ordinateur très tôt à la maison. J'ai cherché de moi-même des images, on tombe encore une fois facilement sur ces images. Et ça a plutôt satisfait ma curiosité. Je n'étais pas étonné, choqué, quoi que ce soit. Et après, avec le temps, on y prend goût, on s'y habitue. Ça devient automatique, en fait.
Oui, c'est ça. Et alors, plus vous avez regardé, plus vous avez regardé, en fait. C'est-à-dire
ouais,
que
c'est
le porno
ça.
Amène le porno.
C'est ça, c'est ça. Et après, avec l'âge, on y prend un peu plus goût. C'est une habitude qui se met en place. Et après, on va dire qu'on a une certaine fréquence en fonction des personnes.
Alors, en fait, après, est-ce que aussi c'est, je dirais, exponentiel dans ce qu'on regarde? Qu'est-ce que vous aimiez regarder? Au début, c'est plutôt soft, et puis après, ça devient de plus en plus hard. Comment ça se passe? On a besoin de toujours plus?
Ouais, c'est un petit peu la dose de dopamine qui augmente. Et j'ai toujours une certaine limite. Quand ça commence à devenir violent, moi, c'est pas trop mon truc. Pour certaines personnes, ça leur parle. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'une certaine scène avec une déposition. Non, on veut un peu plus de violence, de hardcore, etc. Même moi, personnellement, ça n'a pas dépassé un certain cadre. Par exemple, il y a des scènes, on va dire, de viol, ou de trucs vraiment plus hard. Mais moi, je n'ai jamais tombé dedans, en fait. Ça ne m'a pas vraiment attiré. Au contraire, ça m'a repoussé. Quand je voyais ça, je mettais la croix et je fermais direct.
Donc, vous l'avez dit, vous regardez surtout sur votre ordi? Plus jeune, et après, ça a été sur votre smartphone?
Téléphone, ordinateur, iPad, peu importe, en fait. Ouais. Aujourd'hui, on va sur Internet, on tape un site, et il n'y a pas vraiment de restrictions, quoi que ce soit. Tout le monde peut y avoir accès, en fait, au plus jeune âge, peu importe.
C'est quelle fréquence? Alors, quand on dit que vous regardiez hyper souvent, ça veut dire que vous regardiez combien de fois, je sais pas, par jour, par semaine?
Je dirais que j'étais à une fois par semaine minimum, et je pense que quand j'étais au collège et lycée, ça pouvait aller peut-être à deux, peut-être trois fois. Mais au moins une fois par semaine, ça c'est sûr.
Au moins une fois par semaine.
Ouais.
Tellement c'était facile en fait.
Ouais, après comme j'ai dit, ça répond à une demande. C'est moi-même qui fais la démarche d'aller vers ce site et c'est juste là en fait.
Il n'y a rien à faire.
C'est ça.
Il suffit de dire que vous avez 18 ans même si ce n'est pas vrai quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Vous en aviez parlé avec vos parents? Enfin, est-ce que vos parents vous avaient parlé du sujet déjà?
Non, parce que ce n'est pas un sujet dont on va parler avec tout le monde. Surtout avec les parents, il y a une certaine pudeur. Qui s'installe naturellement. Et de toute façon, la génération de mes parents, ce n'est pas un problème qu'ils connaissaient. Donc je ne vois pas pourquoi je leur en parlerais. Ils n'auraient aucune idée de ce que c'est et les solutions qui pourraient être amenées. Du coup, non, je n'en parlais pas aux parents, ni même aux frères, plus avec les amis, on va dire.
Oui, c'est ça. Ça, vous pouviez échanger naturellement avec vos amis.
Ah ouais.
Il n'y avait pas de tabou là-dessus, quoi.
Non, même c'est comme si, en fait, on parlait de séries, de musique, de télévision, peu importe. On va peut-être comparer des actrices. On va rigoler, en fait, ensemble. C'est un petit sujet de conversation. À la fin, en fait, on prend ça à la rigolade quand ça ne dépasse pas un certain cadre, en fait. C'est-à-dire que si, derrière, il n'y a pas une addiction, on peut se permettre d'en rire, etc. Mais quand ça te bouffe personnellement, là, c'est vrai que c'est un problème.
Mais donc, c'était quoi avec vos copains? Vous arriviez le matin en disant « Ouais, je te conseille de regarder telle actrice, tel truc. »
Ah ouais, c'est
comme
ça.
Un film ou une série, quoi.
Exactement. On se fait tourner des actrices, on se demande « Qu'est-ce que t'aimes ?» etc. Après, c'est les goûts de chacun. Peut-être que moi, je vais aimer une femme d'une certaine taille, mon pote, une autre taille, ouais. Une certaine couleur de peau, etc. Peu importe, en fait.
Alors ça, donc, vous avez commencé à regarder au collège. Et puis après, au lycée, vous avez continué de plus belle.
C'est ça. C'est ça. J'ai poursuivi ça, on va dire, jusqu'à l'âge de 24 ans. Du coup, bien sûr, même après le lycée, c'est pas quelque chose qui est étonnant, on va dire, vu que c'est quelque chose, encore une fois, de naturel, en fait.
Oui, c'est ça. Bon, résultat, à chaque fois, on est bien d'accord que c'est pour se masturber.
Exactement.
Voilà. Donc ça, c'est clair. Après, du coup, comment ça se passe avec les filles? Parce que vous avez toute cette partie virtuelle, etc., excitante, à laquelle vous devenez de plus en plus accro. Est-ce que vous arrivez quand même à côté à nouer des liens classiques avec des filles?
Après, ça peut être un danger dans le sens où si on fait que de se réfugier dans le virtuel à travers le porno, oublier un petit peu la réalité. Me concernant, en fait, j'ai toujours su faire la part des choses. C'est-à-dire que je regarde du porno, c'est instantané, je serai pas une pulsion. Mais derrière, bien sûr que je préfère avoir une vraie relation avec des filles, parler, etc.
Avoir Mais vous étiez comment avec les filles?
Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un de timide et réservé. Et au collège, au lycée, c'était ça aussi. C'est vrai que particulièrement avec les filles, mais je ne dirais pas que c'est à cause du porno. C'est plus une question de personnalité, comment j'étais en général, en fait.
Et vous pensez que c'est à cause de cette timidité que, quelque part, le porno était un exutoire, que ça vous permettait tout ce que vous n'arriviez pas à faire avec les filles à cause de votre timidité, vous arriviez à le faire avec le porno, en fait? Ça vous permet de fantasmer
Oui, ouais, c'est sûr. Parce que je dirais que on répond encore une fois à une pulsion. Et quand cette pulsion ne peut pas l'assouvir dans la réalité avec une vraie femme, bah forcément, on va chercher un autre moyen, là, à travers le virtuel, à travers le porno. Et vu que au collège et au lycée, j'avais pas des relations avec les filles, bah forcément, naturellement, automatiquement même, je dirais, je me dirigeais vers le porno, quoi.
Mais est-ce que, par exemple, on dit souvent que le porno, c'est pas la vraie vie, à nos enfants, parce que c'est vrai, est-ce que ça vous a influencé, vous, dans votre vie sexuelle? C'est-à-dire que, par exemple, on voit des acteurs avec des pénis immenses, des muscles comme ça. Qu'est-ce que ça a eu comme influence sur vous, ça? Est-ce que ça vous a inhibé? Est-ce que ça vous faisait marrer?
Ouais, bah, c'est sûr. Il y a toujours une influence, quelle que soit la manière, en fait, à travers le porno. Et là, vous m'avez parlé de la taille des pénis. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis asiatique. Ça ne se voit pas trop, je pense. Mais on est réputé pour avoir un petit membre. Bon, moi, quand je regarde des films...
Moi, je ne savais même pas, moi. Ah bon, c'est votre réputation?
Apparemment.
Je ne sais pas.
Apparemment.
Mais en tout cas... C'est pas venu jusqu'à moi, ce cliché.
Ouais, ben, je vous l'apprends aujourd'hui. En tout cas, quand je regarde ces films-là, et je vois des acteurs avec des membres, c'est une barre de fer, moi, je me regarde et je me dis, mais... Ah ouais, c'est chaud quand même. Et forcément, on est dans une société où la taille, ça compte, et on peut complexer.
Et ça vous a fait complexer, vous?
Ah, c'est sûr que dans les vestiaires, sous la douche, quand je vais jouer au foot... J'ai gardé mon caleçon, quoi.
Ah oui, c'est à ce moment-là. Donc c'est quand même pas rien. Ça vous a complexé.
Quand même.
Si vous n'aviez pas regardé du porno, vous ne seriez sûrement pas posé la question, quand même.
Même si... Je ne sais pas si c'est lié au porno, mais la taille du pénis dans une société, ça fait parler, quand même.
J'ai quand même demandé à Benjamin Muller tout à l'heure ce qu'il en pense. Est-ce que vous avez remarqué des comportements néfastes? Des effets néfastes sur votre comportement, plutôt. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu l'impression que vraiment, il y avait quelque chose de très négatif sur vous?
C'est sûr que quand je regardais du porno, il y avait l'effet d'excitation qui durait. C'est-à-dire que même quand je faisais tout qui n'était pas lié au sexe ou peu importe, j'avais encore ces images en tête. Je peux aller faire du sport, parler avec des gens, être au travail, être à l'école, peu importe. J'avais encore ces images qui restaient, que j'avais regardé la veille, que j'avais regardé il y a même une semaine. Et en fait, le porno, on va regarder ça même quand on a une dizaine d'années. Il y a quand même des scènes qui vont rester gravées à vie, en fait.
Oui, donc ça vous suivait, ça vous travaillait quand même.
C'est ça.
Quand vous avez commencé à avoir une vie sexuelle, est-ce que ça vous a influencé, la pornographie, à votre avis?
Ouais, forcément. Bah, je dirais que dans le porno, il y a un certain schéma qui se poursuit. On va faire telle préliminaire, on va faire telle position, de telle manière.
Et donc, vous imitiez ce que vous aviez vu ?
Inconsciemment, je pense que oui. Et même quand on regarde les choses consciemment, je pense qu'on est toujours influencé. Pourquoi j'aime faire ça et pas ça ? Pourquoi ça, j'aime pas ? Pourquoi je préfère tel physique, mais pas celui-là ? On est toujours influencé.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter, alors, de regarder du porno aussi fréquemment ?
C'était en 2018. J'ai découvert un challenge sur Internet qui s'appelait le NoFap et j'ai voulu le tester. Du coup, je l'ai fait pendant un mois. Et ça a été la durée la plus longue que j'ai testée personnellement. Et aussi parce que dans ma vie personnelle, j'ai senti une grande envie de m'améliorer et de progresser, de m'élever spirituellement, je dirais. Et du coup, identifier les obstacles qui m'empêchaient. Le porno en faisait partie. Et donc, à ce moment-là, j'ai testé ce challenge-là pendant un mois. Et franchement, ça a changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que j'arrive à mieux maîtriser ces pulsions qui sont toujours présentes, c'est normal. Mais je ne me sens pas submergé par ce côté-là. Je ne suis plus vraiment dans un état d'excitation permanent. Et en plus de ça, parce que j'ai aussi arrêté de regarder du porno. La masturbation, je ne pense pas qu'on puisse arrêter complètement. Et je ne pense pas que ce soit sain. Mais le porno, c'est vraiment pour moi la chose à arrêter, en fait.
Mmh. Alors, je précise, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que ce que vous avez évoqué, là, le StopFap, c'est un réseau social anonyme d'entraide pour combattre l'addiction au porno, puisque le porno, c'est une véritable addiction. Donc, vous vous sentez mieux aujourd'hui ?
Ouais, beaucoup mieux, ouais.
Beaucoup mieux. Et j'allais vous demander qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui regarde de la pornographie, mais vous parlez aux jeunes. Vous avez eu envie de transmettre ?
C'est ça. En fait, je fais des vidéos sur YouTube. Tenez ses pensées, hein, abonnez-vous. Là, je vais 1000 abonnés direct.
Vous rigolez avec tous les gens qui nous regardent ? Vous avez 10 000.
10 000, bah, 10 000 en plus alors.
Bien sûr.
Minimum. Je fais des vidéos depuis 6 ans. Je parle de pas mal de sujets, de travail, de l'école, d'argent, de sexualité, relations hommes-femmes, peu importe. Et du coup, quand j'ai sorti cette vidéo, elle a plutôt bien marché. Elle a fait, je sais pas, peut-être 40 000 vues, je sais pas. Pour moi, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours en privé, des messages de personnes qui me disaient « Ouais, tu m'as aidé à faire ceci, comment t'as fait ça ?» Et je pense que le fait d'en parler là tout de suite, ça peut aider, pourquoi pas, certaines personnes.
Bien sûr.
Et je pense que c'est plutôt pas mal, le fait de s'entraider et se donner des outils, en fait, pour s'améliorer.
Je vais vous dire un truc, on est toujours ravis de recevoir Catherine Solano sur ce plateau. Bonjour docteur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, sexologue et andrologue. Vous êtes l'auteur du merveilleux livre que vous devez avoir chez vous. Voilà, c'est votre Bible, hein, je vous le dis tout de suite, le grand livre de la puberté si vous êtes parent tout court et parent d'ado en particulier. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, la première question, la question que tous les parents se posent, docteur, c'est de quelle manière et à quel âge est-ce qu'il faut commencer à aborder ce genre de sujet avec les enfants, c'est-à-dire la pornographie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut l'aborder ?
Oui, je suis maman
d'un enfant de 8 ans, d'un enfant de presque 6 ans. Est-ce que je dois déjà commencer à aborder ça ?
Oui. Alors, de toute façon, il faut l'aborder si jamais il vous en parle, ça c'est évident.
Oui, bien
Mais
sûr.
Je pense qu'il faut l'aborder avant, il faut anticiper, parce que de toute façon, ils vont y être confrontés un jour ou l'autre. Et je pense qu'en maternelle, c'est un peu tôt quand même, et voilà, puis il n'y a pas beaucoup de risques, parce que les parents sont quand même très souvent avec les enfants, on ne les laisse pas beaucoup seuls. Par contre, je trouve qu'à partir du CP, donc à partir de 6-7 ans, il faut en parler, mais attendez pas... de manière, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que je dirais, voilà.
Oui, allez-y, donnez-nous des phrases, on apprend
par cœur. Voilà, de leur dire, écoute, il y a des films avec des gens qui sont tout nus et qui font des choses bizarres. Ce sont des films qui ne sont pas faits pour les enfants. Et même, ce n'est pas seulement que ce n'est pas fait pour les enfants, c'est interdit aux adultes, aux parents, de laisser les enfants regarder ce genre de film. Donc, si jamais tu vois un film comme ça, il faut me le dire, parce que ce n'est pas normal. Et si jamais, chez un copain, quelqu'un veut te faire regarder quelque chose comme ça, il faut lui dire, non, je ne veux pas, ce n'est pas fait pour moi. Et c'est interdit aux enfants, parce que ça leur fait du mal dans leur cœur et dans leur tête. Quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas décrire ce qu'ils pourraient regarder dans la pornographie.
Tu vas voir, la maman. Voilà,
ils comprennent, ils ont une idée.
Vous en avez parlé, Benjamin, à vos enfants, déjà ?
Oui, tout à fait, parce que notamment, en allant télécharger des coloriages sur un site, ça a amené vers justement un lien, cliquer, on voyait une femme nue, etc. On comprenait l'idée, quoi.
Donc, coloriage.
Ma fille m'a tout de suite demandé, ouais, alors du coloriage à la base.
D'accord.
Donc, on se dit qu'on arrive facilement sur du porno en allant sur autre chose, a priori. Quoi. Mmh. C'était pendant le confinement, vous savez, où il fallait s'occuper, faire du coloriage.
Bah oui, c'est sûr.
Alors, Mélissa vous dit, j'ai découvert que mon ado regarde du porno, comment réagir ?
Alors, quand on découvre ça, la première chose à leur dire, à mon sens, c'est « je t'interdis de regarder de la pornographie ».
Ah, c'est qu'il faut être ferme.
Ah oui, moi, je pense qu'il faut dire ça. Un ado, Parce que, pourquoi ? D'abord, parce que c'est interdit aux mineurs, c'est-à-dire que les adultes n'ont pas le droit de laisser de la pornographie à disposition des mineurs. D'accord. Donc, je veux leur dire, c'est mon rôle de t'interdire ça. La deuxième raison, c'est parce qu'on sait que quand des parents interdisent aux enfants de fumer, eh bien, il y a beaucoup moins d'enfants qui fument. Alors, on n'est pas dupes, hein, pour que ce soit pour le tabac ou la pornographie, ils vont certainement regarder au moins une ou deux fois, mais leur donner une ligne directrice, c'est vraiment important. Et puis, il ne faut pas seulement interdire, mais leur dire... Pourquoi je te l'interdis ? D'abord parce que c'est la loi, mais aussi parce que j'ai envie que tu aies une vie sexuelle épanouie, que tu sois heureux dans ta vie amoureuse. Ce n'est pas pour t'embêter que je te l'interdis. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, je trouve que c'est des choses vraiment... parce que beaucoup de parents se disent, de toute façon, ça ne sert à rien d'interdire, donc je ne vais pas en parler. Ouais. Mais si, il faut le dire. Et puis, si vous ne regardez jamais de pornographie, dire à vos enfants, moi, je n'en regarde jamais parce que j'ai envie d'avoir une belle idée de la sexualité, une belle idée de l'amour. Parce que je me rends compte qu'il y a des ados, moi, j'ai déjà entendu ça, qui disent, oui, mais les adultes, ils gardent la pornographie pour eux parce que c'est leur vie sexuelle, en fait. Et alors que ce n'est pas du tout vrai... C'est peut-être vrai pour certains adultes, mais enfin...
Ça peut pour certains parents, on ne sait pas. Mais en tout cas, donc on ne fait que interdire. Ah ben, on lui dit juste, je t'interdis de regarder...
Oui, mais on explique pourquoi on lui interdit aussi. Mmh. Ah ben oui, je pense qu'il faut dire ça. Après, on ne peut pas être là à surveiller tout le temps, mais... Non. Si tu veux avoir une vie sexuelle et amoureuse, exactement, il faut poser un cadre.
On parle du côté dégradant aussi pour les femmes.
Pardon ?
On parle du côté dégradant aussi pour les femmes.
Ah ben, on peut dire beaucoup plus de choses que ça, bien sûr. D'abord, on peut dire aussi... chose que je trouve importante, mais il y a des gens qui gagnent des milliards avec la pornographie et qui profitent de la misère et de la pauvreté de certaines personnes qui tournent dans ces films parce qu'ils sont payés pour avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire que c'est une forme de prostitution quand même aussi. Et c'est très dégradant pour les femmes et c'est pas du tout la vie réelle. Et comment dire, aussi peut-être dire que dans la pornographie, on a l'impression que les femmes ont du plaisir parce qu'elles jouent un rôle, mais en fait, c'est pas du tout la réalité. Quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, qu'on ne désire pas, on n'a pas d'envie, on a très mal parce qu'il n'y a pas de lubrification. Bon, les ados, on peut leur expliquer ça. Et donc, elles sont obligées de mettre des produits pour anesthésier. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de très joyeux, c'est quelque chose de très glauque. Et leur dire, j'ai pas envie que ta vie sexuelle et amoureuse soit basée là-dessus, j'ai envie que ce soit la joie, l'amour et le respect de l'autre et tout ça, quoi. Voilà.
Nous, quand on était plus jeunes, il y avait vaguement M6 qui diffusait un bout de sein un soir par semaine. Bon, ça nous traumatisait.
Il y avait un truc érotique sur France 3, je me souviens.
Ah bon,
c'était vraiment gentil. C'était des films d'époque, elles avaient toutes
en robe souvent. Il y a Louis XIV qui arrivait.
Ça s'appelait Cyril Rose, non, je sais plus comment ça s'appelait. Alors quand on tombait dessus, on était ultra choqués. Et après, il y a eu l'arrivée de quand même le. Canal+. Vous comme ça pour essayer de décrypter, vous vous souvenez ?
Vous n'étiez pas abonné ?
Bah, on s'est abonné. Et moi, c'est mon premier contact avec une image pornographique, c'est sur Canal+, et je me souviens du mal que ça m'a fait. Le choc. Ah oui, oui.
Justement, ça m'a choqué. Il y a une question là-dessus d'Adrien. Ma fille de 9 ans a vu des images porno. Quels peuvent être les risques à long terme ?
Ben, les risques, déjà, je trouve, c'est exactement ce que vous décrivez, Agathe, c'est qu'elle soit choquée et pas bien. Et le problème, c'est que le corps, il a une mémoire. Et donc, moi, je trouve qu'on voit de plus en plus de jeunes femmes qui ont un vaginisme, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels. Et un des éléments qui favorise ça, c'est la pornographie. Parce que le corps, quand il voit des choses horribles, il se ferme, il se dit « moi, j'ai pas envie de vivre ça ». Donc, il bloque le désir, il peut bloquer la sexualité. Ça, ça peut arriver. C'est aussi qu'il
y a... Terminez votre phrase.
C'est aussi qu'elle ait des fantasmes pornographiques après. Vous voyez que, au lieu d'avoir un imaginaire érotique basé sur des événements de la vie réelle, quoi, que ça soit des images dans son cerveau, comme ça.
Muriel qui vous demande, est-ce que la pornographie a une influence directe sur les pratiques sexuelles des ados ?
Ben oui, c'est certain, parce qu'il y a une étude qui est parue en Angleterre, ou plutôt en Grande-Bretagne, à peu près un an et demi, deux ans, qui montrait, ils ont interviewé des femmes, c'est la BBC qui l'a fait, une radio de la BBC, des femmes entre 18 et 39 ans, en leur demandant si elles avaient déjà subi dans leur rapport sexuel consensuel, c'est-à-dire avec leur amoureux, quoi, avec leur partenaire, des choses un peu bizarres, si on avait essayé de les étrangler, si on leur avait craché dessus, si on leur avait tiré les cheveux, si on les avait giflés, mordus, etc. Et donc dans des rapports sexuels consentis, vraiment. Et en fait, plus les femmes étaient jeunes, plus ça s'était produit. Ce qui est le contraire, normalement, de ce qui est attendu, parce que normalement, plus vous êtes âgé, bah, plus vous pouvez avoir vécu des choses différentes. Ouais. Et les auteurs disaient, c'est l'influence de la pornographie qui fait que les femmes de 18 ans, on leur a plus souvent craché dessus, on a fait des choses...
Alors, juste, on peut, peut-être pour nuancer un petit peu, si les jeunes garçons sont influencés par la pornographie, les jeunes filles aussi.
Ah oui, tout à fait.
Donc, c'est vrai qu'elles aussi, j'imagine, ont un comportement différent. Parce qu'on dit, on leur a craché dessus, on leur a tiré les cheveux, etc.
Ce qu'il y a, c'est qu'elles peuvent trouver ça plus normal et pas aussi oser dire, bah, non, ça ne me plaît pas. Parce qu'elles disent, bah, c'est ça, la sexualité. Finalement, si on regarde de la pornographie, on est un peu imprégné par ce qu'on regarde, voire beaucoup. Et du coup, on ne se rend plus tellement compte de ce qui
est... Que quelque chose est humiliant, en fait.
Que quelque chose est humiliant, ou on n'ose pas dire qu'on n'aime pas ça, parce qu'on se dit, bah, c'est ce qui se fait. Donc, si j'accepte pas ça, mon copain voudra pas. Non, mais oui. Donc, ça influence, c'est certain. Et puis, moi, en consultation, je vois ça aussi. Il y a des femmes qui disent, je vois tout de suite quand un homme regarde de la pornographie, la manière dont il a des rapports sexuels. D'abord, il prend plein de positions différentes... Ou s'il y avait une caméra, on verrait tout.
Le fameux gymnaste.
Parce que dans, voilà.
Ça s'appelle. Gymnaste. Et puis fait position après position. Oui.
Et puis des positions pas habituelles, parce que si vous voulez, dans la vraie vie, en général, si on mettait une caméra, on voit rien.
Oui.
Donc, et là, dans la pornographie, on cherche.
C'est sous la couette, on voit rien.
Voilà, exactement. Donc bon, enfin. Et puis par rapport à l'épilation aussi, c'est quelque chose qui s'est énormément répandu à cause de la pornographie, parce qu'on épile les acteurs et les actrices pour qu'on voit plus les organes génitaux. Du coup, c'est comme si c'était normal. Ça devient une norme, quoi, d'être épilé quand on regarde de la pornographie.
Yasmine, entre deux images mentales. Anne vous dit, j'ai découvert par hasard que mon fils visitait des sites porno. Quand je lui ai parlé, il a nié et il refuse tout dialogue à ce sujet. Il a 14 ans, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider?
De toute façon, s'il nie, il faut lui dire, bah, je sais que tu en regardes. Voilà. Ouais. Et puis, ce qu'il faut, je pense, c'est, si vous voulez, quand on est parent, on se dit, mais moi, je ne suis pas à l'aise, petit A, petit B, je ne sais pas quoi dire. Donc, il faut réfléchir. Ce n'est pas forcément une urgence dans la minute, quand on découvre ça, de foncer, lui dire, voilà, il faut réfléchir. Ce qui est important, c'est de lui dire, moi, j'ai envie que tu aies une vie sexuelle heureuse. J'ai envie que tu sois bien, que tu aies une copine et que ça se passe bien, pas que tu reproduises des choses comme ça. Parce que y a une chose, c'est que beaucoup de personnes disent les ados savent que c'est faux, que c'est du cinéma. Ben, c'est vrai, ils ne sont pas idiots. Mais ils ne se rendent pas compte où est la limite entre la réalité et la fiction. Parce que c'est quand même des vrais humains qui sont dans ces films, donc ce n'est pas totalement faux non plus. L'anatomie, par exemple, elle est réelle, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment lui dire c'est pas la vraie vie. Si on trouve ça, lui dire... Ouais, j'ai pas envie que tu sois malheureux, c'est surtout ça. Parce qu'on sait, par exemple, que les personnes qui regardent de la pornographie sont moins heureuses dans leur vie sexuelle. Il y a des études là-dessus. Mmh. Par exemple, elles jugent beaucoup plus mal leur partenaire. Les hommes qui regardent de la pornographie se disent « Franchement, ma partenaire, elle est pas à la hauteur. » Et pareil pour les femmes.
Elle est épilée.
Elle est épilée. Ah bah oui, c'est ça. Voire pas épilée, quelle horreur. C'est sale, etc. Enfin oui, et puis, ils sont moins heureux dans leur vie. Il y a moins d'amour aussi. Parce que ben, ce n'est pas du sentiment, la pornographie. Hein. Ça, c'est clair.
Non, alors ça, c'est sûr.
Et ce qui rend le plus heureux dans la sexualité, c'est quand même l'émotion amoureuse qui s'exprime par la sexualité. Même les personnes qui regardent de la pornographie le disent, mais je me sens beaucoup plus heureux maintenant que j'ai des relations sexuelles avec quelqu'un dont je suis amoureux, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important.
Et d'un autre côté, par exemple, sur l'exemple de l'épilation, il y a aussi tout un mouvement de femmes qui revendiquent maintenant de plus en plus. On se souvient d'Angèle qui fait une photo avec les poils sous les bras. Et il y a un mouvement global quand même là-dessus pour dire foutez-nous la paix, on fait ce qu'on veut. Donc ça contrebalance un petit peu.
Ben, ça, c'est bien, mais...
Ça n'a pas encore atteint la pornographie, quoi.
Ouais. Oui, non, je trouve ça vraiment bien que les femmes, voire les hommes, disent ça, parce que... Mais vous savez que c'est difficile, hein. Je connais un jeune homme, sa copine, elle ne s'épile pas du tout, ni sous les bras, ni les jambes, rien. Et il disait, sur la plage, elle se fait insulter. On la traite de yéti, de souillon, alors que je me dis, ben, vous avez le droit de vous épiler si vous voulez, mais vous avez aussi le droit d'adopter vos poils et de les garder, quoi. Et je trouve ça génial, ce mouvement, parce que je me dis... En plus, il y a un autre aspect, c'est que c'est augmenté par l'industrie cosmétique, parce que c'est un marché énorme, ça rapporte de l'argent, l'épilation, les rasoirs, etc. Donc, les femmes étant plus pauvres que les hommes, déjà en moyenne, elles gagnent moins d'argent. En plus, elles sont obligées de perdre du temps et de l'argent à s'épiler alors que ça ne sert strictement à rien. Donc, Oui, ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous.
Il y a des mouvements dans la société qui vont à l'encontre de ce qu'on dit là et des conséquences du porno sur nos ados. Ouais.
Justement, je pense que c'est un mouvement qui existe par réaction.
Ouais.
Exactement, oui, heureusement.
Alors, on vient de recevoir une question de quelqu'un qui nous dit « Mon fils, qui a 12 ans, a vu des images porno avant son adoption, adopté à l'âge de 8 ans. Il a une image légèrement dégradée de la femme, il touche les filles au collège. » Et cette personne vous demande que faire. Ouais.
Écoutez, là, faut l'emmener voir un psy pour enfants. Hein. C'est important parce que ça veut dire qu'il a dû subir des attouchements, peut-être pas seulement voir de la pornographie. Et ça, c'est vrai qu'il y a une chose qui est traumatisante, je trouve, c'est que les pédophiles font regarder de la pornographie aux enfants pour qu'ils n'aient plus tellement de repères et qui trouve ça normal de subir des attouchements ou des viols. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui perturbe complètement les enfants. De toute façon, et par rapport à l'addiction aussi, ça c'est une chose importante, c'est qu'on sait que les addictions sont beaucoup plus puissantes quand ça commence avant 15 ans. Par exemple, quelqu'un qui commence à boire de l'alcool à 10-11 ans, je ne parle pas à une cuite, hein, même à boire un peu d'alcool, il a plus de risques de devenir alcoolique, d'avoir une addiction. Oui. Quelqu'un qui commence à fumer avant 15 ans, ça sera beaucoup plus dur d'arrêter plus tard. Quelqu'un qui commence à regarder de la pornographie beaucoup très jeune, ça modifie le cerveau, en fait.
Donc là, il y a un traumatisme. C'est donc à prendre au sérieux. Vous conseillez un psy ?
Ah oui, moi, je trouve qu'il faut absolument montrer un enfant comme ça.
Mettre le paquet, rendez-vous à l'école aussi, pour expliquer au proviseur, j'imagine.
Oui,
parce qu'on peut comprendre les parents des jeunes filles qui sont un peu plottées par le gars. Bon, ils ne sont pas contents non plus.
En plus, il est tout jeune encore.
12 ans.
Oui, 12 ans. Il faut absolument qu'il ait une thérapie, parce que le plus vite possible, parce que plus on est jeune, plus une thérapie c'est efficace aussi. Hein. Ça c'est important parce que le cerveau, il est plus plastique, il va intégrer plus les images pornographiques, mais si on fait une thérapie, il va plus facilement se modifier.
Vous regardez parce que vous vous dites, bah, pour Agathe c'est trop tard, son cerveau n'est plus plastique, il est en
bas. Non mais je me dis, c'est important de le dire parce que cette maman qui nous regarde, elle doit être inquiète forcément, on se met à sa place, mais c'est pas irréversible.
Ah ben non.
Rien n'est figé.
Dès qu'un enfant fait des attouchements, quelque chose qu'on trouve pas normal, il faut le signaler aux parents et leur dire il faut faire quelque chose parce que peut-être que cet enfant, sans que vous le sachiez, a subi des attouchements ou quelque chose. Et c'est pas rare, malheureusement.
Oui. Hein. Ouais. Malheureusement. Oui. Alors, une autre question, vers quelle solution se tourner pour que des ados découvrent la sexualité de façon plus soft qu'avec le porno ?
Alors ça, c'est une vaste question. Mais déjà, je trouve qu'il faudrait lire, hein, dans la lecture, leur trouver des choses qui soient à leur portée. Ouais. Il faut leur parler, leur dire... Et puis, on n'a pas forcément besoin d'une éducation aux pratiques sexuelles. Je pense qu'on le découvre petit à petit. Et c'est ça qui est chouette aussi. Enfin, normalement, habituellement, quand un jeune couple se forme... ils vont petit à petit aller vers des relations sexuelles, mais pas tout de suite. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent « Avant d'avoir un rapport sexuel avec ma copine, pendant 2 ans, on a eu des câlins, des bisous, puis des caresses de plus en plus sexuelles, et c'est venu petit à petit. On n'a pas besoin d'apprendre. Même au début, pendant 3 ans, on n'a fait qu'une position, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire d'autres. C'est quand même agréable d'avoir une vie sexuelle qui évolue progressivement plutôt que dès la première fois se dire il faut faire la gymnastique et être multiposition, quoi, par exemple. Oui. Puis on perd beaucoup en sensualité. Et non seulement les personnes qui ont vécu ça, ce qu'elles me disent souvent, elles me disent ça a été la plus belle partie de ma zone... ça a été les moments les plus merveilleux de ma vie sexuelle, de cette découverte. C'était quand même chouette.
Le fait que ça aille étape par étape.
Puis qu'on a envie de faire un peu plus, mais qu'on n'ose pas au début.
Plus quand on aime.
Oui, c'est vrai aussi.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous, ça nous a intéressé. Merci à Catherine Solano et merci à Tony d'être venu nous voir, de se raconter avec Agathe Le Caron. On se retrouve demain pour une nouvelle Maison des maternelles en direct sur France 2, 9h30. Et puis le podcast des maternelles quand vous voulez. Et bien évidemment, on se retrouve également sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde.